Merci beaucoup, cher Alain Supiot, de l'invitation. Je vais essayer effectivement d'ouvrir cette réflexion en précisant bien que je ne suis donc ni juriste ni philosophe, mais géographe, tentant de comprendre le processus de mondialisation et pas de globalisation, et de comprendre ce processus d'une manière un peu particulière, comme je vous l'expliquerai dans quelques secondes. Et j'ai de fait essayé depuis une dizaine d'années de cadrer ce processus dans le cadre d'une géographie un peu particulière, que l'on pourrait appeler plutôt une sorte d'anthropologie politique de l'espace habité par les êtres humains, qui fait appel assez régulièrement à des théories non géographiques. Et je vais essayer de vous montrer comment nous pouvons essayer de prendre ce concept de mondialisation, de le distinguer de celui de globalisation, qui de facto est tout à fait insuffisant pour comprendre ce qui est en train d'advenir, et puis éventuellement comment peut-on tenter d'utiliser, si vous me passez ce mot, la pensée de Simone Weil dans un contexte évidemment très différent du contexte de formalisation de cette pensée. Mais je crois néanmoins que c'est utile et que c'est même particulièrement stimulant. Commençons par quelques positions de principe. Je vous prierai par avance de m'excuser d'aller très vite, hein, mais 35 minutes, c'est très peu, donc je serai obligé de procéder par affirmation. Et vous renverrez au texte que j'ai pu écrire si vous souhaitez avoir plus de précision. D'abord, refuser de confondre globalisation et mondialisation. Alain Supiot l'a très bien expliqué, la globalisation s'est imposée comme un concept relativement faible, de mon point de vue, pour décrire ce qui est en fait une évolution des structures de production et de distribution de valeur ajoutée. C'est très intéressant et très important, parce que l'économie est toujours très intéressante et très importante dans l'évolution des sociétés humaines, mais c'est très insuffisant pour appréhender un processus beaucoup plus global encore que la globalisation, beaucoup plus générale, que nous pouvons nommer donc la mondialisation. La mondialisation, au sens strict du terme, c'est la construction d'une nouvelle réalité humaine, d'une nouvelle réalité géographique qu'on appelle le monde. J'ai consacré donc en 2013 un livre, L'avènement du monde, à l'apparition de cette nouvelle réalité géographique. J'utilise le monde comme un concept bien particulier, c'est pour ça que je l'écris avec un M majuscule, toujours pour le différencier du mot ordinaire, et j'ai l'habitude de dire le monde n'a pas changé, il est advenu, il est apparu, c'est-à-dire il n'existait pas avant globalement les années 1950. Il y a eu des mondes, il y a eu d'autres réalités d'organisation de l'espace des sociétés à d'autres échelles, mais pas quelque chose que l'on pourrait appeler le monde, c'est-à-dire la constitution d'un espace social d'échelle planétaire qui est tout à fait particulier dans l'histoire, qui correspond à quelque chose qu'on a trop souvent tendance en France à oublier, dont on occulte l'importance. Le monde est le résultat d'un processus d'urbanisation généralisée des sociétés. Donc le postulat qui est le mien, c'est que ce que l'on appelle la mondialisation, c'est en fait le résultat d'une fabrique, si l'on peut dire, tout à fait particulière, qui est liée à l'urbanisation de toutes les sociétés mondiales. Et cette urbanisation n'est pas simplement un mouvement démographique, ça n'est pas simplement un mouvement économique, cette urbanisation, c'est un mouvement anthropologique, au sens où il s'agit d'un changement profond des manières de vivre. Ainsi, des genres de vie, pour reprendre un vieux concept de la géographie de Vidal de la Blache, hein, c'est un changement en profondeur des genres de vie, et c'est un changement de ce que j'en appelle, en ce qui me concerne, les régimes d'habitation ou de cohabitation, plus exactement, des humains entre eux, en précisant que, dans ma perspective, l'habitation est un concept fort, et habiter également. J'ai l'habitude de dire aujourd'hui que la géographie, c'est la science sociale et humaine qui se préoccupe de comprendre ce qu'il en est d'habiter pour les êtres humains en société. Et il faut surtout éviter de confondre habiter et résider. La résidence, ça n'est pas l'habitat. Le logis, ça n'est pas l'habitat. Habitat est un concept plus général. Il faut en effet considérer le concept d'habitat en le reprenant à sa source au XIXe siècle. Le concept d'habitat est forgé au départ dans le milieu des sciences naturelles, et à cette époque-là, l'habitat va très rapidement décrire l'espace de vie d'une espèce. Et nous pouvons donc, à partir de cette source, faire l'hypothèse suivante. L'habitat humain, c'est l'espace de vie de l'espèce humaine. Donc, nous voyons bien que cette espèce humaine organise des espaces de vie très particuliers, ce que les géographes ont l'habitude d'appeler un œcumène. C'est-à-dire justement cet espace de vie humain très particulier de l'époque contemporaine, puisque nous sommes dans une période où l'œcumène, l'habitat humain, se confond et est parfaitement congruent de la planète Terre dans son intégralité, ce qui n'a pas toujours été le cas. Les œcumènes humains n'ont pas été congruents de la planète pendant très longtemps. Il y avait énormément d'espaces qui étaient des espaces qui restaient régis par des lois qui ne sont pas celles de l'habitat humain. Le changement global que nous connaissons, qui se caractérise, et nous en avons parlé dans cette même salle au Collège de France il y a un peu plus d'un an, à l'initiative de Philippe Descola, dans le cadre d'un colloque qui a fait date sur le changement global qui se caractérise par le réchauffement climatique, une phase d'extinction des espèces sans équivalent depuis l'ère secondaire, et le tarissement des ressources non renouvelables et même des ressources renouvelables, ce changement global est véritablement l'indice que désormais le monde est parfaitement congruent de la planète, du système biophysique Terre, puisqu'il n'y a plus un endroit de cette planète qui est à l'abri de ce changement global qui résulte lui-même du forçage de la machine biophysique par les activités humaines. Donc nous sommes incontestablement dans une époque très particulière. Si j'avais le temps, d'ailleurs, je vous montrerai que nous sommes même dans une époque encore plus particulière, puisque l'œcumène humain a comme caractéristique d'être un tout petit peu plus grand que la planète. Voilà, vous avez peut-être suivi l'aventure du spationaute français Thomas Pesquet ces 6 derniers mois dans la station orbitale russe occupée par les différents astronautes et cosmonautes de tous les pays, prenant sous toutes ses coutures en photo la planète. Eh bien, c'est bien parce qu'il est dans une position d'extériorité qu'il a pu se permettre cela. Il y a aujourd'hui une partie de l'œcumène humain qui est extra-planétaire, et d'ailleurs il y a un signe qui ne trompe pas, les juristes le savent, il y a une convention des Nations Unies et une structure internationale pour gérer les déchets spatiaux. Alors, tous les archéologues le savent, dès qu'il y a des poubelles, il y a de l'être humain. Donc, s'il y a des déchets dans l'espace, ça veut dire qu'il y a une occupation humaine qui est extraterrestre. Donc, il y a une réalité humaine qui est très particulière et qu'il faut prendre au sérieux. L'habiter devient le concept qui décrit des manières de construire un habitat. L'habitation devient l'action d'habiter par les êtres humains. Et la cohabitation, c'est cette activité universelle. Alors, je dis universelle et relative. L'universel relatif, drôle de formulation, mais pour montrer que cette activité universelle, tous les êtres humains habitent et cohabitent. Mais c'est relatif parce qu'évidemment, selon les situations sociales, nous avons des cultures de cohabitation qui ne sont pas les mêmes, et la géographie essaye de comprendre la convergence des cultures habitantes en période de mondialisation, mais aussi, nous allons le voir, les différenciations qui continuent d'exister en fonction de cultures œcuménales spécifiques propres à chaque environnement sociétal et à chaque environnement culturel. Cette cohabitation, c'est donc ce qui exprime la nécessité du partage d'espaces de vie entre les humains, C'est en quelque sorte la traduction géographique de cette formule assez géniale, comme souvent de Kant, qui a professé un cours de géographie pendant pratiquement toute sa vie, l'insociable sociabilité, le fait que nous recherchons le commerce avec d'autres humains, mais qu'en même temps nous le fuyons parce qu'il est contraignant, eh bien nous avons nécessairement à partager une fraction de notre espace de vie avec d'autres, et ce partage est tout sauf paisible, en général, et c'est cette cohabitation qui, moi, en tant que géographe, m'intéresse, d'autant que, et là aussi c'est un acquis de la réflexion œcuménale récente, cette cohabitation, c'est une cohabitation entre humains, mais aussi entre les humains et les non-humains, et vous savez à quel point les non-humains font retour dans les réflexions que nous pouvons avoir sur nos manières de vivre aux différentes échelles, et là aussi, on pourrait convoquer énormément d'exemples. Regardez l'importance prise par la réflexion sur l'animalité, ou sur la place du végétal, par exemple, dans les espaces urbains contemporains, ou à l'échelle globale, l'importance prise dans les réflexions sur l'anthropocène, l'importance prise par les réflexions consacrées à l'extinction des espèces, ou à l'apparition de nouveaux pathogènes, par exemple, qui sont des défis particuliers et nouveaux pour l'espèce humaine. Nous pourrions passer de longues minutes pour essayer de définir les principes des genres de vie urbains mondialisés. Je ne ferai là que les citer en utilisant là quasiment un style de mitraillette, pardonnez-moi, mais autrement je vais largement dépasser les 35 minutes avant même d'arriver à Simone Weil. Mais il y a quelques caractéristiques de ces genres de vie mondialisés, de la manière de vivre le monde que nous pourrions évidemment examiner longuement. Et vous retrouveriez pour chacun de ces principes quelques grands travaux, quelques grands auteurs qui, dans les dernières années ou les dernières décennies, puisque je fais dater le processus d'urbanisation généralisée du monde de l'après-Seconde Guerre mondiale, ça avait commencé évidemment bien avant, mais là-dessus, tous les chiffres montrent qu'à partir de 1950, il y a une sorte d'emballement du processus d'urbanisation et qui durera jusqu'en 2050. Il y aura eu un siècle d'urbanisation intense qui mènera en 2050 les deux tiers au moins de la population, 10 milliards donc d'êtres humains. Et je rappelle que c'est différent de faire monde à 10 milliards ou de faire monde à un peu plus d'un milliard comme en 1900. Ça n'est absolument pas le même type de problématique. Donc les deux tiers de la population humaine seront urbanisés en 2050, vraisemblablement un tout petit peu plus, c'est-à-dire environ 7 milliards d'urbains en 2050, et nous avons donc là des processus qui accompagnent cette urbanisation, l'accélération des sociétés, je ne reviens pas, tous les travaux par exemple d'Armut Rosa ont montré l'intérêt de prendre au sérieux cette accélération, l'importance, c'est par ordre alphabétique, je n'ai pas voulu les hiérarchiser, il n'y a pas de hiérarchie, tout ça fait système. L'importance de l'apparition d'une nouvelle culture et de nouvelles technologies de la connexion. L'être humain contemporain mondialisé est un être connecté. C'est devenu quelque chose de tout à fait indispensable pour ce que l'on appelle les digital natives, c'est-à-dire les jeunes gens issus de la génération du début des années 90 ou du début des années 2000, être privé de ces moyens de connexion. C'est quelque chose qui remet en question leur individualité. Nous-mêmes, même les plus anciens d'entre nous, enfin beaucoup d'entre nous, être privés de notre connexion à Internet sur notre ordinateur constitue, ou notre téléphone portable constitue souvent une entrave à nos manières d'exister. Donc la connexion est devenue une culture mondiale, et ça n'est pas sans doute un hasard que les entreprises aujourd'hui, dans le cadre du capitalisme qu'Alain Supiot a posé très rapidement comme cadre, les entreprises les plus puissantes en termes de capitalisation boursière sont toutes des entreprises qui se fondent sur leur maîtrise des technologies de connexion et qui même d'ailleurs monétisent, font leurs bénéfices à partir de cette connexion, comme si la connectologie en quelque sorte était devenue une nouvelle discipline reine du monde. L'individualisation, évidemment, nous sommes dans des sociétés d'individus encore bien plus que ce que Norbert Elias avait pu montrer en son temps de manière tout à fait saisissante. L'illimitation urbaine, nous sommes sortis de l'époque où nous pouvions très facilement distinguer ce qui était urbain et ce qui ne l'était pas. Ça devient aujourd'hui extrêmement difficile pour les raisons liées à la connexion, c'est-à-dire tout point urbain peut être connecté à un autre. Donc nous sommes dans un monde où, à proprement parler, les espaces urbains sont illimités. Et avec comme caractéristique que même lorsque l'on est dans un espace qui apparemment n'est pas urbain, par exemple un espace que l'on pourrait qualifier d'espace rural, eh bien en fait, par le jeu des connexions et des genres de vie, nous sommes en fait intégrés dans le fonctionnement urbain. Il y a quelque chose qui est très déconcertant dans une certaine mesure, et nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir parce que ça rentre évidemment dans le champ de l'incorporation de la pensée de Simone Weil à la réflexion sur la mondialisation. La mobilisation, l'apologie des mouvements, la logistique et les cultures mobilitaires se sont imposées là aussi comme des références absolument insurpassables en termes de culture de la mondialisation. La numérisation, évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire. La numérisation, c'est le développement du numérique à tous les niveaux de la vie individuelle et sociale, avec apparition de choses qu'on ne pouvait même pas pressentir il y a 20 ans. Le big data, par exemple, qui est en train de bouleverser complètement, y compris la manière de penser dans certaines disciplines. Et puis, la standardisation, c'est-à-dire le développement de standards au plan des formes architecturales, des paysages, des modes d'organisation urbaine, des types d'organisation d'entreprise, vous en avez parlé, cher Alain Supiot, des modes de management, peut-être du droit mondial, mais aussi des cultures. Finalement, ce que l'on appelle parfois la world culture, c'est une forme de standardisation apparente, en tout cas des cultures, et il y a eu énormément de travaux qui ont essayé de finalement théoriser ce nouvel ordre global. Sigmund Boyman, avec sa réflexion sur les sociétés liquides, c'est-à-dire des sociétés qui finalement sont tellement marquées par la mobilité et par la connexion que tout est fluide, il n'y a plus d'arrêt, il n'y a plus de possibilité d'être quelque part puisque l'on est toujours connecté partout, donc des sociétés d'écoulement, des sociétés de flux, des sociétés apolitiques dans une certaine mesure, c'est-à-dire qui remettent en question les conditions même de l'existence d'une politique, ou des auteurs comme Thomas Friedman qui ont essayé de théoriser, cette fois-ci dans une perspective plutôt optimiste, Boyman ne l'était pas, l'idée de l'existence d'un monde plat. Friedman essaye de réfléchir à ce qu'il appelle de flatness, c'est-à-dire les vecteurs d'aplanissement du monde qui sont tous des vecteurs liés aux mobilités et aux télécommunications. Nous avons donc une mise en place de systèmes spatiaux, d'espaces de vie connectés, fait de choses interconnectées, d'imagination géographique, puisque les géographes s'occupent toujours de comprendre les imaginations géographiques des sociétés qu'ils observent. Une imagination géographique, c'est un ensemble de pensées, d'imaginaires, de valeurs qui qualifient des espaces de vie et qui définissent le type de pratiques licites et illicites qu'on peut finalement tenter dans ces espaces de vie, et des pratiques habitantes qui sont également très nouvelles, et tout cela vient biaiser les cadres classiques des rapports des individus, des sociétés à leurs espaces. Et là, évidemment, je pourrais rester également très longtemps sur cette affirmation, mais donnons comme exemple la fragilisation des formes anciennes de stabilisation locale des populations, la fragilisation des lieux anciens, la fragilisation des terroirs, la fragilisation des espaces de production agricole, la fragilisation des espaces de production économique de proximité, mais aussi la fragilisation de la nation, de l'État-nation, qui a été, je ne vais pas revenir là-dessus parce que vous le savez mieux que moi, une forme canonique d'organisation des sociétés, mais aussi une imagination géographique extrêmement puissante qui a, en quelque sorte, défini une période d'évolution des sociétés humaines qui a été celle de l'époque post-westphalienne, moderne, et de la première internationalisation que nous avons connue jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors, dans ce cadre, quel peut être l'apport de Simone Weil ? Eh bien, ce qui m'intéresse en tant que géographe, c'est évidemment non pas de transposer terme à terme Simone Weil à l'époque contemporaine, mais plutôt comprendre Simone Weil comme une matière en pensée qui nous permet d'insister sur des points relativement aveugles, ou en tout cas sur des points critiques de l'analyse contemporaine du monde, et qui nous permet de progresser dans la volonté d'essayer de comprendre ce que l'on peut observer, puisque je le dis très vite, personnellement, mes observations de terrain de géographe ne me confrontent pas à l'existence d'une société liquide et d'un monde plat. C'est-à-dire, je ne l'observe pas. Donc, j'observe au contraire quelque chose de très différent. J'y reviendrai. J'observe, je le dis tout de suite, quelque chose que j'ai plutôt appelé un regain d'importance des lieux. Un regain d'importance des lieux dans la vie des sociétés et dans la vie des individus. Je ne dis pas un retour, je dis un regain. Ceux qui ont lu Jean Giono savent ce que veut dire le mot regain. Un regain d'importance des lieux, c'est ce que j'ai essayé de décrire dans le livre Hyperlieux, c'est-à-dire qui essaye de comprendre comment les lieux, ce regain des lieux fait sens dans des sociétés mondialisées de manière un peu contre-intuitive. C'est-à-dire, là où certains voyaient des sociétés de plus en plus uniformes, de plus en plus lisses, de plus en plus plates, de plus en plus liquides, moi je vois au contraire des lieux réaffirmer leur importance. Et du coup, je cherche des références, et Simone Weil fait partie de ces références à travers, évidemment, son travail ultime sur l'enracinement. C'est-à-dire à travers sa réflexion sur ce qui était pour elle un mal absolu, le déracinement des êtres humains, c'est-à-dire le fait que Simone Weil affirme que le déracinement, elle peut le nommer géographique, c'est-à-dire par rapport aux collectivités qui correspondent à des territoires, et elle écrit « le sens même de ces collectivités a presque disparu, le village, la ville, la contrée, la province, la région, toutes les unités géographiques plus petites que la nation ont presque cessé de compter ». Nous voyons qu'elle n'est pas contemporaine, parce qu'elle donne encore à la nation, et on le comprend, une importance qu'à mon sens la nation aujourd'hui n'a plus tout à fait, mais nous voyons bien qu'elle met en exergue la crise d'espace de référence et d'imagination géographique qui vont avec ces espaces de référence, et que cette crise produit ce qu'elle appelle le déracinement, qu'elle désigne comme la plus dangereuse des maladies des sociétés humaines, et elle pointe l'attention de son lecteur sur les menaces que fait peser le déracinement, évidemment dans un contexte, le livre est écrit en 43, hein, dans un contexte très particulier, puisque pour elle, l'Allemagne nazie était une puissance de déracinement absolument terrifiante, et elle montre que le déracinement conduit finalement à la mort des sociétés humaines authentiques. Et Simone Weil va ensuite théoriser l'enracinement. Alain Supiot a déjà montré peu ou prou cette citation ou la citation qui suit. Hein. L'être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivant certains trésors du passé, certains pressentiments d'avenir. Participation naturelle, c'est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l'entourage. Alors un géographe comme moi serait très critique sur le « amener automatiquement par le lieu hein. ». C'est-à-dire, là, je ne le pense pas, parce que ça recycle un peu des idéologies très problématiques du génie du lieu, hein, de quelque chose qui amènerait automatiquement, par ces conditions mêmes, quelque chose de l'ordre d'une culture. La géographie a montré qu'il n'en était rien. Mais c'est là où je dis qu'il faut faire une lecture critique, évidemment, de Simone Weil. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt la suite. Chaque être humain a besoin d'avoir de multiples racines. Comme toujours chez Simone Weil, la pensée déjoue les pronostics. C'est-à-dire, on pourrait croire qu'elle plaide pour une sorte d'enracinement extrêmement traditionnel, et en réalité, elle insiste sur la multiplicité des racines. C'est-à-dire, elle se donne les possibilités de dépasser elle-même sa proposition de pensée. Et pour la suite, vous voyez qu'elle insiste sur, non pas la racine unique, la monovalence de la racine, l'univocité, si je puis dire, de la racine, mais au contraire, les influences, les ouvertures, le fait que par ces multiples racines, on peut être ouvert à des milieux très différents qui sont tous indispensables et qui doivent en quelque sorte être métabolisés par l'activité individuelle et sociale pour former une culture spatiale particulière qui trouve son expression géographique dans un type d'espace particulier. Donc, vous voyez, nous avons une pensée beaucoup plus fluide et beaucoup plus riche qu'on pourrait le croire. Et je trouve que porter attention à Simone Weil permet en fait de mieux comprendre ce regain des lieux dont je parlais, dans un monde travaillé par l'urbanisation et bouleversé par l'anthropocène, eh bien nous avons des processus en vérité de différenciation de plus en plus marqués en des lieux qui s'affirment, comme je le dis, comme des prises de et sur la mondialisation. Alors si j'avais le temps, je vous montrerai comment ce concept de prise, je le prends chez un psychologue très particulier qui s'appelle Gibson, hein, c'est la traduction du concept d'affordance, hein, de Gibson, et qui considère qu'une affordance, une prise, c'est en quelque sorte un support, quelque chose qui permet à un être humain d'étayer ses pratiques. Donc l'hypothèse que je fais, c'est que les lieux contemporains dont j'examine le regain sont des étés pour faire en sorte que les êtres humains en milieu mondialisé puissent finalement définir leurs pratiques, soutenir leurs activités. Hein, et je dis que ces lieux que j'examine sont en fait les endroits où l'on peut au mieux observer cette chose tout à fait fascinante et tout à fait centrale dans toute étude de mondialisation, c'est-à-dire l'interaction entre l'échelle individuelle et l'échelle globale. C'est-à-dire les lieux que j'étudie sont en fait les espaces où l'on peut comprendre comment chaque individu rentre en tension avec les logiques de mondialisation, et donc nous pouvons donner à ces lieux aussi, en quelque sorte, un statut d'observatoire de ce qu'il en est de la vie individuelle et sociale en période de mondialisation généralisée. Donc pour un géographe comme moi, les lieux deviennent aussi une sorte de paillasse, si vous me permettez l'expression, hein, pour reprendre la terminologie des scientifiques, où je peux au mieux observer la tension créatrice de sens entre l'individualité dans son irréductible caractère local et la mondialité dans son irréductible caractère global. Et un des emblèmes de ces lieux, c'est ce que j'appelle les hyperlieux, hein, donc des lieux où, comme je le dis, hyper renvoie à la fois à hyper d'hypermarché, mais aussi à hyper d'hypertexte ou à hyper d'hyperbole. Hein. Ce sont en quelque sorte des lieux, pardonnez-moi le néologisme peu gracieux, hyperbolisés par la mondialisation. Donc non pas des lieux à l'ancienne, mais beaucoup plus des lieux travaillés par les processus de la mondialisation dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure. Comme il me reste 6 minutes, je n'aurai pas le temps de définir les caractéristiques de ces hyperlieux. Je renvoie tous ceux qui sont intéressés au livre donc Hyperlieux, mais j'examine dans ce livre quelques hyperlieux idéaux typiques au sens de Weber, par exemple des grandes places urbaines comme Times Square à New York, et en particulier cet exemple me permet d'insister sur quelque chose de très important qui est que dans ces hyperlieux se traduit, s'exprime aussi une orientation très particulière des pratiques sociales contemporaines, mondialisées, c'est-à-dire le fait que la plupart des individus pensent leurs pratiques sociales comme des expériences. Il y a une évolution vers ce que j'appelle une dimension expérientielle de la pratique sociale. J'utilise pour cela le travail d'un grand philosophe, Jean-Marie Schaeffer, qui a publié chez Gallimard il y a 2 ans un très beau livre, L'expérience esthétique, sur cette expérience particulière qui est celle de l'esthétique, mais qui propose en fin de livre de considérer finalement que l'expérience esthétique n'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire, mais pourrait être dans la période contemporaine une sorte de modèle pour toute activité humaine. Et moi, je suis frappé de voir à quel point l'expérience devient un mot-clé dans la plupart des pratiques sociales. L'expérience esthétique, récemment, arrivant dans ce terminal de Roissy-Charles-de-Gaulle, terminal G et H réservé à la clientèle asiatique, je fus accueilli par « Venez vivre l'expérience du shopping » à Paris-Charles-de-Gaulle. Je ne savais pas que le shopping était une expérience. On vit des expériences culturelles, des expériences politiques, des expériences commerciales, des expériences sportives, des expériences de colloque, peut-être, je l'espère, cher Alain Supiot, puisqu'on ressort évidemment toujours marqué par ces expériences. Et dans ce type d'hyperlieu, cette dimension expérientielle est très forte, en même temps qu'on s'aperçoit qu'un des points, c'est que cette expérience est à la fois celle d'individus, mais aussi une expérience d'espace en commun. J'essaye de montrer que ces hyperlieux sont des espaces que j'appelle affins, affinitaires, si vous préférez, et je retrouve la vieille étymologie du mot affine ou affin, qui en latin veut dire familier. Dans ces hyperlieux, je suis en expérience partagée d'un espace en commun avec d'autres, et en raison de cela, cet espace me devient familier et les autres me deviennent familiers. Et il y a donc aussi tout un travail sur la familiarité qui ne me paraît pas éloigné de la réflexion de Simone Weil sur l'enracinement et sur la relation des individus avec leur milieu géographique, mais évidemment, cette fois-ci, quelque chose qui est dans un contexte très différent. Donc, j'utilise aussi les grands shopping malls, les grands centres commerciaux, pour notre plus grand bonheur et mon plus grand désespoir. Nous avons là le lieu le plus visité au monde, c'est le shopping mall de Dubaï. Oui, je ne suis pas sûr que ça soit très rassurant pour le monde, que le lieu le plus visité au monde, ça soit le shopping mall de Dubaï. Et personnellement, quand on est dans cet espace-là, c'est là où je me sens le plus proche du statut d'idiot utile du capitalisme. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est Dubaï. J'étudie aussi des aéroports. Voici les nouveaux aéroports. Si j'avais le temps, je vous montrerai comment ce type d'aménagement sert à produire de l'intimité, essaye de domestiquer des espaces fonctionnels. Ça, c'est Shibuya, les grandes gares. Mais j'essaye aussi de me poser des questions plus politiquement encore intéressantes, c'est-à-dire la Plaza del Sol à Madrid au moment du mouvement des indignés n'est-elle pas non plus un hyperlieu? Et donc j'essaye de travailler tous les mouvements de place, Occupy Wall Street, ce qui s'est passé autour des indignés, tous les mouvements Occupy, ce qui s'est passé à Hong Kong, place Tahrir au Caire, Taksim en Turquie, Nuit debout à la République. Comment ces occupations de place, tout mouvement politique contestataire aujourd'hui passe par une occupation de place, comment ces occupations de place expriment-elles, elles aussi, des regains d'activité de ces lieux? Et cela me permet de conclure dans les 3 minutes qui me restent pour arriver à mes 35 minutes. Je suis à 31:30. Cela me permet de conclure pour dire que cette analyse que je vous dévide bien trop rapidement permet d'essayer de comprendre comment l'habitat d'un humain en période de mondialisation est constitué en fait par ce que j'appelle des ancrages. Alors je préfère conceptualiser l'ancrage plutôt que l'enracinement, parce que même si j'essaye de forger des concepts relativement neutres, nous savons bien quand nous faisons des sciences sociales qu'aucun concept n'est exempt de sens métaphorique. Et autant enracinement parfois me trouble, parce que si l'on coupe une racine, l'être humain ou la chose racinée a tendance à dépérir, j'aime au contraire l'arrière-plan métaphorique d'ancrage, parce que l'ancrage, c'est incontestablement les endroits où l'on a besoin de faire halte. Les êtres humains, comme l'avait bien montré Simone Weil, ont besoin d'endroits où ils peuvent trouver le repos, où ils peuvent faire halte, des pauses dans le flux mondialisé, des moments où ils peuvent être en commerce singulier avec d'autres êtres humains et des non-humains. Nous avons tous besoin d'ancrage et nous avons plusieurs ancrages. Le logis n'est pas le seul ancrage que nous avons. Pour d'autres, nous pouvons être multi-ancrés. Cet amphithéâtre du Collège de France peut être un ancrage si vous suivez régulièrement les cours et que ces cours sont devenus pour vous un moment important de votre biographie. L'ancrage, c'est tout ce qui nous permet de poser notre vie, de l'étalonner, de la configurer en quelque sorte à partir de ces points d'ancrage. Donc j'aime bien le concept d'ancrage parce que on mouille l'encre, mais on lève l'encre aussi. C'est-à-dire l'encre, c'est aussi ce qui permet, lorsqu'elle est relevée, et l'ancrage, c'est ce qui permet d'aller voir ailleurs. C'est quelque chose qui serait la transposition dans mon travail, très modestement, du texte de Simone Weil dans le contexte contemporain de la mondialisation. C'est la proposition, en tout cas, que je vous fais très rapidement. C'est ce que le travail de Simone Weil laisse à mon propre travail, évidemment, avec toutes les réserves nécessaires. Donc, nous avons besoin d'ancrage, mais nous avons aussi des mouvements. L'être humain a toujours été en mouvement. Je ne comprends pas aujourd'hui un certain nombre d'idéologies qui voudraient arrêter les mouvements migratoires, qui voudraient arrêter les mouvements humains. Mais même la préhistoire et la paléo-anthropologie nous montrent que dès l'apparition des Néandertaliens et de Sapiens, l'être humain a toujours été un être de mouvement. Donc les mouvements sont nécessaires et nous avons aussi besoin de connexion. Et l'habitat mondialisé, ça n'est pas un ancrage ou des mouvements ou des connexions. Ce qui est intéressant, c'est la mise en système et la mise en tension créatrice de tout cela. C'est cela qui fait l'habité humain mondialisé. Des ancrages, des mouvements, des connexions de chacun et de tous. Et du coup, et je termine en 15 secondes, et je suis à 35 minutes, le travail qui nous reste à faire, c'est d'inventer une éthique et une politique de cette cohabitation qui est à la fois une cohabitation parfaitement locale pour chacun et totalement globale pour chacun et pour tous. Eh bien, c'est le projet le plus mobilisateur qui soit, à mon sens, pour les sciences humaines et sociales. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, cher Michel Lussault. Nous allons prendre un petit, grâce à votre respect scrupuleux du temps, nous allons avoir un peu de temps justement pour discuter des questions très importantes que vous avez abordées avec nos collègues autour de sur cette chaire et puis aussi les autres intervenants que j'invite à intervenir particulièrement, mais aussi avec le public. Il doit y avoir quelque part LinkedIn avec un micro quelque part. J'espère qu'il est par là. Il est là, il est là-bas, il a son micro. Donc pour ouvrir cette discussion, on pourrait partir de ce que vous venez de dire, hein, mettant à distance les racines au profit des ancres. Les ancres, c'est les bateaux. C'est les bateaux. Donc en fait, vous avez trouvé une solution pour vous arranger du monde liquide avec les ancres. Mais dans les racines, il y avait toute cette idée qu'on se nourrit, en particulier d'un passé, d'une culture. Avec les ancres, c'est plus difficile, non ?
Oui, c'est là où il faut prendre quelques accommodements avec la métaphore. Hein. Ce qui est important dans le concept d'ancrage, c'est d'insister plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur cette nécessité de trouver des arrêts, de trouver des points d'arrêt. Mais des points d'arrêt qui sont aussi des points de départ. Et vous avez tout à l'heure insisté sur quelque chose de très important, cher Alain Supiot, sur lequel Simone Weil insiste beaucoup, c'est effectivement la présence de l'histoire, la présence du passé. Je n'ai pas le temps ici de développer, mais je viens d'écrire un texte pour la réédition d'une série de photographies de Raymond Depardon, qui s'appellera « Habiter la France » en collection Point. Et j'insiste beaucoup sur le fait que dans ces photos, donc d'espaces un peu anodins de la France, on voit parfaitement bien ce qu'il est très difficile de saisir autrement en géographe, c'est-à-dire ce que j'appelle la dimension spectrale des lieux de vie. C'est-à-dire, je pense effectivement que tous les lieux humains sont spectraux au sens où ils entretiennent nécessairement un rapport équivoque et complexe au passé. Et comme dirait l'autre, alors le spectre Derrida en avait parlé dans son livre célèbre Spectre de Marx, hein, c'est-à-dire comment des fantômes viennent travailler une actualité, ce qui m'intéresse dans les lieux contemporains, c'est justement d'essayer de comprendre comment les fantômes du passé, les traces du passé, viennent travailler une actualité sans la surdéterminer et sans empêcher toute naissance de nouveauté. Et je pense que l'enjeu éthique et politique, c'est d'arriver à concilier une actualité et une antériorité, un passé. Là, en revanche, je suis pleinement d'accord avec Simone Weil lorsqu'elle dit le futur ne nous donne rien, il nécessite notre engagement plein et entier, mais le futur ne nous appelle pas, il ne nous donne rien, ce qui peut permettre de construire un devenir
d'ailleurs je préfère ce mot, hein, devenir spatial en commun, c'est notre manière dans l'actualité de conjuguer ce qu'il en est du passé, ce que nous gardons du passé, ce qu'il advient du passé sous forme fantomatique et ce qu'il en est de notre présent. Alors, je suis d'accord que l'enracinement de ce point de vue-là est plus clair, notamment parce que ça permet de recycler immédiatement toutes les réflexions sur la terre, sur le terroir, sur la relation à la terre. Mais je fais le pari aussi que compte tenu de l'importance de la maritimité dans l'histoire des sociétés humaines, finalement on peut accepter de s'ancrer sur terre. En tout cas, qu'il y a aussi quelque chose qui renvoie à cette possibilité de se tenir quelque part, de comprendre ce quelque part a comme passé et d'essayer d'en fabriquer, d'en faire quelque chose qui ne soit pas purement nostalgique et purement tourné vers l'allégorie autochtone du passé ou l'allégorie identitaire d'un passé nostalgique qui souvent d'ailleurs n'a jamais existé.
Oui, mais ne soyez sans crainte, on peut parler librement ici de toute façon. Je crois me souvenir que dans son œuvre, quand elle parle d'enracinement, elle parle aussi d'enracinement dans le ciel. Donc ça, c'est peut-être une chose qu'il faudrait introduire dans la discussion. Et puis pour nous autres juristes, là, vous disiez on peut faire dans la mer. La distinction du terrestre et du maritime a une très très longue histoire. Elle était au cœur notamment d'une œuvre majeure d'un juriste nazi, mais très intelligent, qui était Carl Schmitt, dans son Homos de la Terre. Donc, jusqu'à une période très récente, je pense que c'est dans les années 90, dès lors qu'en droit il s'agissait de désigner la Terre, le droit utilisait un registre de vocabulaire extrêmement étendu, les provinces, les empires, les états, les départements, les chefs-lieux, les communes, enfin bon. Et puis, le mot « espace » avait pour signification toujours de désigner des lieux inhabitables. C'était l'inhabitable des espaces maritimes, et ensuite on a vu apparaître la notion d'espace aérien, et puis espace au sens spatial, parce qu'avec tous ces déchets, la question de droit spatial se pose. Donc, l'espace, dans cette dimension cartésienne, abstraite d'une notion d'espace, s'opposait à des terres qui étaient toujours nommées. Et habiter la terre, c'était la nommer. D'ailleurs, sur la capacité qu'ont eu les hommes à nommer les plus petites parcelles, il y a eu beaucoup d'études des géographes là-dessus. Et la notion d'espace, elle apparaît dans le vocabulaire juridique sur la terre avec le droit européen, qui ne se définit pas comme un territoire, mais comme un espace de justice, de paix et de liberté. On ne peut que être aspiré dans cet espace, mais effectivement, il se définit par la non-limite. Alors, c'est un petit peu, c'était ça le sens de ma question. Est-ce que, d'un point de vue géographique, la notion d'espace peut servir à, comme ça, peut se substituer à toute autre espèce de terminologie? Ou est-ce qu'on doit garder quelque chose de cette dimension particulièrement abstraite à l'intérieur de laquelle l'habitat humain va créer des dominations particulières? Je ne sais pas si je suis très clair dans ma question. Alors, les racines du ciel, vous n'êtes pas obligé. Je pense qu'on abordera peut-être cette question avec Madame Renoir. Donc, mais enfin, si vous le souhaitez.
Alors, pour les géographes, en tout cas la géographie contemporaine francophone, hein, puisque ça serait différent dans le monde anglophone, espace est devenu le concept générique pour renvoyer à l'espace de vie habité. Si l'on veut parler de quelque chose qui est plus lié à des perspectives euclidiennes ou cartésiennes, on parlera plutôt, nous, d'étendue. Et à l'intérieur de cette catégorie générique, on va discerner des sous-catégories, territoire, lieu, air, réseau, horizon, frange, etc. On va un tout petit peu conceptualiser cela, et en particulier parce qu'on estime que c'est nécessaire de différencier des espèces d'espace, comme dirait l'autre. En ce qui concerne et l'espace, pour autant, est aussi strié par des limites. Hein, c'est-à-dire, paradoxalement, la géographie n'a jamais autant travaillé sur les limites, les frontières, les seuils qu'aujourd'hui. Parce que, au moment même où on prônait ou on affirmait la disparition des frontières, on s'apercevait que dans les espaces urbanisés contemporains, les limites n'avaient jamais été aussi puissantes. Il y a une sorte de paradoxe qui fait qu'un géographe a même écrit « On a l'impression que plus les limites extérieures aux sociétés s'affaiblissent, plus les limites internes aux groupes humains s'affirment ». Et on a en particulier beaucoup développé la réflexion sur ce que vous connaissez peut-être, ces fameuses « gated communities », c'est-à-dire les communautés de résidence fermées qui existent partout au monde aujourd'hui comme un standard résidentiel et qui portent en quelque sorte la puissance de la limite en plein cœur des espaces ordinaires sans que l'on puisse dire qu'il s'agisse de frontières au sens classique du terme. Et il y a donc maintenant des micro-géopolitiques locales qui sont liées à cela. Je précise une chose, c'est que les géographes contemporains s'occupent aussi de l'air et de l'aérien, en particulier parce que en période de changement global, j'en parle beaucoup dans Hyperlieux, la question de la qualité de l'air, de la basse couche de l'atmosphère, devient une question essentielle. Et pour vous surprendre, mais ce n'est absolument pas un thème anecdotique, aujourd'hui, on s'est aperçu qu'un des sujets les plus intéressants quand on fait de la géographie urbaine, vraiment un des sujets les plus stimulants, c'est la question de l'accès à l'air frais. C'est-à-dire, c'est la question de la climatisation. Et d'ailleurs, dans le livre Hyperlieux, je parle d'une histoire de la climatisation, parce que le centre commercial de Dubaï, 85 millions de visiteurs par an. Le centre commercial de Dubaï, vous ne pouvez pas l'envisager sans capacité de climatiser l'air. Donc la climatisation devient quelque chose de central, ça veut dire qu'on peut donc faire une géographie de l'air.
Merci. De courtes remarques terminologiques. En vous écoutant, j'étais aussi frappé par la dernière métaphore de l'encre, mais il existe aussi des encres flottantes. C'est-à-dire, du temps de la marine à voile, notamment quand les bateaux étaient en perdition pour ne pas être vraiment emportés et culbutés dans la tempête, donc on jetait une amarre, il y avait une sorte d'encre tissu qui au moins ralentissait la course du bateau. Donc elle n'est pas ancrée dans le sol, mais voilà. Donc je me dis, c'est une catégorie intermédiaire des dispositifs ralentisseurs dans ce flux, cette dynamique de mouvement. Ce serait un peu l'équivalent du parachute pour ce qui est de l'ancrage dans le ciel. Et puis, d'autre part, réfléchissant aussi au droit et en juriste, vous savez l'importance en droit des sources du droit. Donc, quand même, il y a une métaphore liquide là, à l'origine, vraiment le plus fondamental. Le droit se décline sur un certain nombre de sources, constitution, loi, jurisprudence, doctrine, coutume, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que semble-t-il, la première occurrence en Occident de cette métaphore des sources est due à Cicéron, une citation de Cicéron, et dans la même phrase, littéralement la même phrase, Cicéron donc parle des origines du droit, des lieux où il s'inscrit, de sa jeunesse. Dans la même phrase, il parle de souche et de source du droit. Et donc on aurait pu prendre là un virage assez différent, soit un ancrage vraiment dur qui renverrait peut-être à la pyramide des normes, et puis... Là, on a plutôt pris fons juris, les sources du droit, qui nous amènent à une conception peut-être plus dynamique du droit. Mais en tout cas, la tension est très présente et je pense finalement nécessaire et porteuse pour comprendre le droit.
Cette réflexion sur l'encre flottante... Elle est importante. Par exemple, j'ai travaillé avec un groupe d'étudiants sur les parcours de migrants de la Syrie vers l'Angleterre, en travaillant sur en particulier la jungle de Calais et d'autres camps. Ce qui est étonnant et dans ces parcours si difficiles et si contrariés et qui mettent en question... la conception même que nous avons de l'hospitalité. ou plus exactement qui mettent en exergue la conception que nous avons de l'inhospitalité. C'est que pour les migrants, on peut trouver comme ça de multiples points d'ancrage flottants en quelque sorte. C'est-à-dire, les migrants font rarement le trajet d'un point A vers un point B d'une seule fois. Ils ont besoin d'arrêts, ils ont besoin de points d'ancrage qui bougent pour certains au sens strict du terme, qui bougent avec les évacuations policières, ils reviennent en arrière, ils repartent. C'est-à-dire, nous sommes aussi dans un monde contemporain tellement marqué par le mouvement que nous pouvons avoir des ancrages flottants. Je sais que ça peut paraître étrange, mais c'est pourtant comme ça qu'on peut le voir lorsqu'on observe un certain nombre d'habitants du monde, de cohabitants, et comme je l'ai dit tout à l'heure, les migrations font partie de la mondialité et sont même une signature de la mondialité contemporaine. Donc, considérer l'espace des 250 millions de migrants par an, c'est comprendre le monde contemporain. Et on trouve de ces espaces-là ancrage flottant. C'est curieux. Et les migrants sont en même temps en mouvement et en connexion. Qu'est-ce qu'on fait dans un camp, dans un campement, dans un bidonville de migrants ou dans un petit campement de fortune? Que fait-on? C'est comme ça que j'ai remarqué que dans beaucoup de villes européennes, les migrants de fortune recherchent les places de marché, parce que sur les places de marché, il y a des branchements électriques. Que fait-on? On branche son téléphone portable pour être au contact, soit de son passeur, soit de sa famille restée sur place, soit des gens qu'on vise en Grande-Bretagne. Ça veut dire que la connexion, elle est vitale. Si vous perdez votre connexion, vous êtes extrêmement fragilisé en tant que migrant. Donc vous avez des stratégies spatiales d'adaptation très fines qu'on ne peut pas comprendre. Pourquoi est-ce que les migrants viennent camper provisoirement sur des places? Mais souvent parce que sur les places, on trouve des points électriques. Voilà, donc ça fait partie de notre mondialité, il faut le comprendre, n'est-ce pas? Et il faut évidemment définir une éthique et une politique, chose qu'en France aujourd'hui, on se refuse à faire.